Henry, la recette perdue. Depuis que les bars ont été bénis par le clergé et que les dîners de l'élite commencent par des cocktails, on a le droit de parler des bistrots. Les membres de la besnique anti-alcoolique ne sont pas obligés d'écouter. Après tout, il y a toujours des restaurants automatiques où l'on peut glisser une pièce au-dessus du robinet de bouillon froid qui vous servira aussitôt un martini sec. Con Landry travaillait au café Kennedy du côté sombre du comptoir. Vous et moi, nous tenons sur un pied de l'autre côté et dispersons notre salaire hebdomadaire en libations diverses. En face de nous, nous voyons danser Con, propre, tempéré, poli, calme, ponctuel, jeune, loyal. Souriant dans sa veste blanche, c'est lui qui nous sert et qui prend notre argent. Le bistrot, qu'il soit béni ou maudit, se trouvait sur l'une de ces petites places qui ont la forme d'un parallélogramme et qui sont habitées par des blanchisseries, de vieilles familles décrépites et des membres de la bohème qui n'ont rien à faire avec les deux premières. Kennedy habitait au-dessus du café avec sa famille. Sa fille, Catherine, avait des yeux noirs. Mais à quoi bon vous dire ça? Ce n'est pas elle qui nous intéresse, c'est votre Géraldine ou votre Elisa. Mais Con rêvait d'elle, et lorsqu'elle l'appelait doucement au pied de l'escalier du fond pour demander le pichet de bière du dîner, le cœur de Con montait et descendait dans sa poitrine comme le cocktail au lait dans le shaker. Les règles du roman sont justes et ordonnées. Si vous jetez votre dernier shilling sur le comptoir en commandant un whisky, le barman le prendra et épousera la fille de son patron. Et ce sera très bien comme ça. Mais hélas, ce n'est pas le cas pour Conn. Car en présence des femmes, il devenait muet et écarlate. Lui qui était capable d'un seul coup d'œil de faire taire un client bavard que le cocktail ou le punch avait rendu trop bruyant, ou de dompter les clients tapageurs au moyen d'une presse citron, ou d'expulser irrésistiblement le client grincheux ou indésirable, il devenait aussitôt incohérent, désemparé, sans voix, submergé, sous une brillante avalanche de misère et de timidité, lorsqu'il se trouvait devant une femme. Qu'était-il donc aux yeux de Catherine? Un trembleur, incapable de parler pour lui-même, une souche inanimée. C'était certainement le plus lourdaud des amoureux qui ait jamais bégayé sur la pluie et le beau temps en présence de leur divinité. Un jour entrèrent chez Kennedy deux hommes au teint bronzé, Riley et McQuick. Ils s'entretinrent un instant avec Kennedy. Puis ils s'enfermèrent dans une petite pièce du fond, qu'ils remplirent aussitôt de bouteilles, de siphons, de fioles, de cruches et d'épouvrettes. Toutes les consommations possibles qui sont servies dans un café se trouvait là, mais personne ne buvait. Toute la journée, les deux hommes, rouges et suants, passèrent leur temps à verser et à mélanger des essences et des décoctions inconnues au moyen d'un liqueur qu'ils avaient à leur disposition. Riley, qui était le plus instruit des deux, couvrait de chiffres des rames de papier, faisant des règles de trois, transformant les tonneaux en litres et les litres en décigrammes. McQuick, un homme morose, aux yeux rouges, goûtait très légèrement chaque mixture et la jetait aussitôt sur l'évier avec un juron rauque, profond et guttural, travaillant d'arrache-pied sans arrêt, dans le but sans doute de découvrir quelque mystérieux amalgame liquide. Il ressemblait à deux alchimistes s'efforçant de fabriquer de l'or avec des métaux impurs. Un soir, lorsque son travail fut terminé, Kan se dirigea dans la petite pièce du fond. Sa curiosité professionnelle avait été éveillée par les agissements de ces barmen occultes qui se donnaient boire à personne et qui pochaient tous les jours abondamment dans le stock de liqueurs de Kennelly à seule fin de poursuivre leurs expériences dévastatrices et stériles. Et juste à ce moment-là, Catherine descendait l'escalier de fond avec un petit sourire semblable à l'aurore aux doigts de rose. « Bonsoir, monsieur Lantry, » dit-elle. « Quelles sont les nouvelles aujourd'hui, s'il vous plaît ?»« Il va pleuvoir, » bégaya le timide barman en s'appuyant au mur. « Mon Dieu, » répondit Catherine, « je crois qu'un peu d'eau ne peut pas faire de mal. » Dans la salle du fond, Ricky McQuick travaillait comme des sorcières barbues à leur étrange composition. De 50 bouteilles, ils extrayaient les liquides soigneusement mesurés, conformément aux chiffres de Ricley, secouaient le tout ensemble dans une grande carafe en verre. Puis McQuick, après l'avoir goûté, la jetait sur l'évier, en jurant d'un air sombre, il recommençait. « Asseyez-vous, » dit Ricley à Kan, « je vais vous expliquer. L'été dernier, Tim et moi décidons qu'un bar américain dans le pays de Nicaragua devait rapporter de l'argent. Il y a une ville sur la côte où il n'y a rien à manger que de la quinine et rien à boire que du rhum. Les indigènes et les étrangers se couchent avec un frisson et se lèvent avec la fièvre. Et un bon cocktail est un remède pour de tels inconvénients tropicaux. Alors nous nous procurons à New York un superbe stock de liquide, d'ustensiles de bar et de verrerie, et nous cinglons sur un steamer vers cette ville de Santa Palma. Pendant le trajet, Tim et moi, nous nous amusons à regarder les poissons volants, et nous jouons aux dés avec du commandant et le maître d'hôtel, et nous commençons déjà à nous imaginer que nous sommes les rois du gin et du whisky sur le tropique du Capricorne. Et lorsque nous ne sommes plus qu'à 5 heures du pays dans lequel nous allions introduire des boissons fortes, le commandant nous convoque auprès de l'habitacle de bord et nous donne quelques indications. « J'ai oublié de vous dire, mes amis, » fit-il, « que le mois dernier, le Nicaragua a institué un droit d'entrée de 48% ad valorem sur toutes les liqueurs importées en bouteille. » Paraît que l'autre jour, le président a pris par erreur une bouteille de lotion capillaire pour un flocon de sauce anglaise. Et sans doute y a-t-il à se venger. Par contre, les liqueurs importées en tonneau entrent librement. Mais dommage que vous n'ayez pas mentionné cela plus tôt, disons-nous. Et aussitôt, nous achetons au commandant 2 tonnes de 42 galions. Puis nous ouvrons toutes les embouteilles et nous versons le tout pêle-mêle dans les tonneaux. Ce droit d'entrée de 48% nous aurait ruinés. C'est pourquoi nous courûmes le risque de fabriquer au petit bonheur ce cocktail de $1,200 plutôt que de faire faillite. Alors, après avoir débarqué et nous être provisoirement installés, nous mettons en perce l'un des tonneaux. Le mélange était quelque chose de déchirant. Il avait la couleur d'une assiette de soupe au pois et le goût de l'un de ces ersatz de café que votre tante vous fait prendre à cause des troubles cardiaques attrapés sur le champ de course. S'en donna un verre à un nègre pour l'essayer. Et aussitôt, il se coucha sous un cocotier et il resta 3 jours en battant le sable avec ses pieds et à la fin, il refusa de nous signer un certificat. Mais l'autre tonneau, dites barman, vous est-il jamais arrivé de mettre un chapeau de paille avec ruban jaune et de monter dans un ballon avec une jolie fille et 8 millions de dollars dans votre poche, tout ça en même temps? Eh bien, c'est à peu près l'effet que vous produisez 30 gouttes de ce second mélange. Quand on avait seulement un petit verre à l'intérieur, on se plongeait la figure dans les mains Et on se mettait à pleurer, parce que le champion du monde des poids lourds n'était pas là pour qu'on lui flanquât une tournée. Oui, monsieur, ce qu'il y avait dans ce second tonneau, c'est de l'élixir de bataille, de l'essence de bonheur et de grande vie. C'était de la couleur de l'or, et aussi clair que du verre. Et le soir, quand le soleil était couché, ça brillait encore, comme si le soleil était resté dedans. Il faudrait 10 siècles pour qu'on puisse vous servir une boisson comme ça dans les bars. Alors nous ouvrîmes le commerce avec le seul tonneau, et c'était suffisant. L'aristocratie bigarrée de ce pays fonça dessus comme un essaim d'abeilles. Si ce tonneau avait pu durer, ce pays-là serait devenu le plus grand de la terre. Aussitôt que nous ouvrions le matin, nous trouvions devant la porte une queue de généraux, de colonels, d'anciens présidents et de révolutionnaires qui attendaient d'être servis. Nous commençâmes par mettre le verre à 1 demi-dollar. Mais les 10 derniers galons partirent facilement à 5 dollars la gorgée. C'était un miraculeux breuvage. Ça donnait à un homme du courage, de l'ambition et le pouvoir de faire n'importe quoi. Et en même temps, ça empêchait le type de réfléchir et d'avoir de la peine quand il posait son argent sur le comptoir. Le tonneau n'était encore qu'à moitié vide, que déjà le Nicaragua avait réduit la dette nationale, supprimé le droit d'entrée sur les cigarettes, et ils étaient sur le point de déclarer la guerre aux États-Unis et à l'Angleterre. C'est tout à fait par hasard que nous découvrîmes cette reine des boissons. Ce sera un grand coup de verne si nous poursuivons la retrouver. Il y a 10 mois que nous essayons. Bien que travaillant sur de petites quantités, nous avons mélangé depuis ces 10 mois des tonneaux entiers des inoffensifs ingrédients, comme dans la profession de la boisson. On aurait pu monter 10 bars avec les whisky, les brandy, les cordiaux, les bitters, les gins et les vins que Tim et moi avons gaspillés. Une glorieuse boisson comme ça, refusée au monde. Oh, mais c'est une honte et une perte d'argent. La nation des États-Unis serait heureuse d'accueillir une boisson comme celle-là et de payer pour l'avoir. Cependant, Mark Quinn n'avait pas cessé de mesurer soigneusement et de mélanger de petites quantités d'alcool variées que Riley lui indiquait d'après sa dernière prescription. Lorsque Riley eut fini de parler, McQuick venait de terminer un mélange d'une couleur chocolat peu appétissante. Il le goûta et le précipita avec une grimace et des épithètes appropriées sur l'évier, comme les précédents. « C'est une étrange histoire, même si elle est vraie, » dit Con. « Eh bien maintenant, je m'en vais aller dîner. Buvez un coup, » dit Riley. « Nous avons tout ce qu'il faut, excepté cette maudite recette perdue. »« Oh, je ne boirai jamais d'alcool, » répondit Con. « Rien que de l'eau. »« Eh bien, au revoir, Miss Catherine, m'attend au pied de l'escalier. » Tout à l'heure, elle me disait « Je crois qu'un peu d'eau ne peut pas faire de mal. » Mais lorsque Con fut sorti, Riley appliqua sur le dos de McQuick une claque formidable qui fit chanceler celui-ci. « Mais as-tu entendu ça? Mais nous sommes 2 idiots. Les 6 douzaines de bouteilles d'eau minérale que nous avions sur le bateau, c'est toi qui les as ouvertes toi-même. Mais dans quel tonneau les as-tu mis, là? Dans quel tonneau? » Je crois me souvenir, dit McQuick lentement, que c'est dans le 2e tonneau. Je me rappelle le bout de papier bleu qui était collé sur le côté. Ça y est, cria Risley, très excité. On le tient maintenant. C'était l'eau qui manquait. C'est l'eau, l'eau, tu entends. Tout le reste était parfait. Dépêche-toi, mon vieux. Va chercher le bouteille d'eau minérale au bar. pendant que je vais calculer les proportions avec mon crayon. » Une heure plus tard, Con revenait en flânant sur le trottoir vers le café Kinnearley. C'est ainsi que les fidèles employés, durant leurs heures de récréation, hantent le voisinage des lieux où ils travaillent, comme s'ils étaient attirés par quelque puissance mystérieuse. Un panier à salade était arrêté devant la porte de service. Trois puissants policemen étaient en train d'essayer de pousser dehors, dedans, Riley et McQuick. Les yeux et le visage de chacun d'eux portaient la marque évidente d'un conflit sanguinaire et assidu. Cependant, ils manifestaient une joie étrange. Ils dirigeaient sur la police les faibles restes de leur folle pugnacité. « Ils sont mis à se battre tous les deux dans la salle du fond !» cria Kenny Aliacon. « Et aussi à chanter !» Ça, c'était pire. Et puis, ils sont mis à tout casser. Mais ce sont de braves types. Et je sais qu'ils paieront. Paraît qu'ils étaient en train d'essayer d'inventer une nouvelle espèce de cocktail. Je tâcherai de les faire sortir demain matin. Con se glissa dans la salle du fond pour inspecter le champ de bataille. Au moment où il traversait le hall, Catherine descendait les escaliers. « Bonsoir, monsieur Lantry, » dit-elle. « Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles du temps ?»«
Oh, ça me lasse encore. Encore de pleuvoir, » répondit Con en passant devant elle, tout rougissant.
Riley McQuick s'était en effet livré une grande et amicale bataille. Des bouteilles et des verres brisés gisaient sur le sol. La salle était pleine de fumée d'alcool. Le plancher était parsemé de flaques spiritueuses. Sur la table se trouvait une éprouvette graduée, dans le fond de laquelle il restait quelques gouttes de liquide. Un liquide brillant et doré qui paraissait retenir le soleil prisonnier dans ses profondeurs orifères. Con le prit et le sentit. Il le goûta, il le but, et comme il sortait pour traverser le hall, Catherine se préparait à monter les escaliers.
« Pas de nouvelles, monsieur Lantry ?» demanda-t-elle avec un rire taquin.
Con l'attrapa, la souleva comme une plume et la serra contre lui.
« Les nouvelles, dit-il, sont que nous allons nous marier. »«
Mais voulez-vous me laisser, monsieur ?» s'écria-t-elle avec indignation. « Où je vais ? Oh, Con, où avez-vous pris le courage de me dire ça ?»